Alors, premier message de l'année, je ne vous parlerai pas des bonnes résolutions que l'on prend en début d'année ou en début d'année scolaire pour les enseignants et les élèves, parce que souvent on les oublie très vite. Priez plus, témoignez davantage, moins m'énerver quand je fais un truc anodin, etc. Donc, j'aimerais plutôt vous parler de notre vocation en tant que chrétien. Est aussi assez approprié pour un début d'année. À quoi et par qui avons-nous été appelés? Le point de départ de cette réflexion trouve sa source dans un article de Valérie Duval-Pujol, qui est une théologienne et qui coordonne actuellement une équipe de 57 spécialistes de la Bible, qui met à jour, alors je pense que c'est la Bible en français courant, mais j'ai un petit doute, c'est ça? Oui. La Bible en français courant qui paraîtra cette année, en 2019, ce qui représente un travail colossal, il faut le dire. Il faut savoir que la première édition de cette version français courant, parce qu'il y a des grandes versions, la version seconde, la version de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, etc., chacune a sa particularité et une intention bien précise. Bible en français courant, ça veut dire s'adresser à des gens qui ont un vocabulaire qui n'est pas, je dirais, très étendu. Une Bible facilement accessible, je dirais, aux jeunes générations. J'en dis pas plus. Alors, donc, cette première édition, je disais, est parue en 71. C'était juste le Nouveau Testament. Et je pensais que c'était plus récent que ça. Le temps passe vite. Et la Bible entière, Ancien et Nouveau Testament, est parue en 86. Enfin, ça fait quand même plus de 30 ans. C'est grosso modo le rythme de mise à jour de chaque grande traduction. Voici. Alors, cet article, en fait, je voulais vous le partager un dimanche, pendant le moment de témoignage. Et alors, il y a plein de gens qui avaient des tas de choses formidables à dire. Donc, j'ai préféré le garder sous le coude en me disant, c'est pas la peine d'en rajouter, ça va faire trop long. Donc, j'en profite pour vous le partager. Et puis, ça m'a amené à quelques réflexions. Voilà. Alors, elle part de Marc 8, 13 à 15, qui dit ceci. Puis Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Il fit cela pour les avoir avec lui et pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle avec l'autorité de chasser les démons. Un passage très court. Et voici ton commentaire. L'appel de Jésus envers les 12, envers ceux qu'il voulait, cet appel traduit et rappelle de manière concrète l'initiative de Dieu, sa souveraine initiative et la totale gratuité de son appel. Voyez comment ce récit commence avec l'initiative de Jésus. Lui les appelle. Cette accentuation sur le fait que c'est lui qui est à la manœuvre se voit d'ailleurs dans ces versets au fait que 9 des 11 verbes principaux concernent des actions de Jésus, 2 seulement les disciples. Ensuite, mais que dans un second temps, on nous dit la mission des disciples et enfin, dans un dernier temps, leur nom. C'est une vérité fondamentale de notre vie chrétienne. Celui qui est à l'initiative de tout ce cheminement que nous avons avec Dieu, c'est bien le Christ qui le veut. C'est bien Dieu lui-même qui le veut. Celui qui m'a créé, celui qui m'aima le premier, celui qui a voulu la relation avec moi, qui est mort sur la croix pour moi, qui me donne la vie éternelle, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui l'ai choisi d'abord, c'est lui qui m'a voulu, c'est lui qui veut, qui appelle chacun d'entre nous. Cette conviction que c'est Dieu qui m'a choisi, aimé, appelé, mis en marche, n'est pas donnée pour nourrir notre arrogance. Il ne s'agit pas de savoir si telle personne a mérité d'être appelée ou si j'ai mérité d'être appelé ou pourquoi il m'appelle, mais il s'agit de se souvenir de celui qui appelle et de garder les yeux fixés sur lui. Jésus appelle ceux qu'il a voulu. Il veut comme disciples des gens d'une autre dénomination que la mienne, ce qui crée un rempart au sectarisme et à la toute-puissance qui nous tente. Il veut comme disciples des gens bien portants et des personnes handicapées, ce qui crée un rempart à une compréhension de l'Évangile qui ne serait que succès et richesse. Il veut comme disciples des étrangers, des réfugiés, ce qui crée un rempart à tout nationalisme ou populisme. Il veut comme disciples des femmes, ce qui crée un rempart au sexisme, au machisme et à toutes les injustices. Petit aparté, Valérie est présidente d'une association qui s'appelle Une chaise vide, si je me rappelle bien. Oui, en tout cas, c'est une action de promotion, hein, une chaise vide. On aura l'occasion d'en reparler. Elle prend des initiatives de temps en temps pour rappeler l'importance de la place des femmes dans nos vies. Jésus appela ceux qu'il voulait. Jésus appelle aujourd'hui celles et ceux qu'il veut. Reconnaissons combien nous avons parfois du mal à accepter cette fratrie. On a du mal à accepter que l'appel du Christ pour ceux qu'il voulait, qu'il aime, n'est pas un appel qui exclut. On a du mal à accepter que l'unité à laquelle on est appelé, selon la prière de Jésus en Jean 17, « Soyez un », est une unité plurielle. On confond trop souvent unité avec uniformité. Rappelons-nous que même quand Dieu se présente comme un dans la Bible, comme en Deutéronome 6, schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, l'adjectif hébreu employé echad connote un pluriel. Il implique une unité formée de différentes parties. On peut songer à la Trinité. L'unité n'est pas l'uniformité, mais la diversité réconciliée. L'unité n'est pas l'uniformité, mais la diversité réconciliée. Alors, il y a pas mal de thèmes abordés dans ce texte très riche. Je voudrais en prendre quelques-uns. Qui est l'initiateur de la rencontre? Ça, c'est le début de ce texte. Hein, d'une personne avec le Dieu de Jésus-Christ. À réfléchir sur notre propre expérience, nous pouvons parfois avoir le sentiment que c'est nous qui sommes allés à la rencontre du Seigneur. Rappelez-vous, pour ceux qui ont confié leur vie à Jésus-Christ et pour ceux qui sont en chemin, comme il est parfois long ce chemin que nous empruntons pour nous laisser convaincre par le Saint-Esprit. À nous convaincre de quoi? En principe, premièrement, que nous avons été créés à l'image de Dieu, qui est à la fois saint et amour. Deuxième point, que nous avons un problème de relation avec lui, car il est saint, et que nous constatons dans notre vie que nous ne sommes pas, nous sommes pécheurs. Troisième point, que nous avons besoin de nous réconcilier avec lui, et que ce moyen passe par la compréhension du sacrifice de Jésus à notre place pour satisfaire la justice de Dieu. Et oui, Dieu est amour et aussi saint. Et la sainteté a un rapport avec la justice. Quatrième point, que nous pouvons le faire sauveur et seigneur de notre existence par une prière d'engagement, tout simplement. Alors, vous reconnaissez la logique de la bonne nouvelle dans une présentation certes un petit peu cérébrale, mais il est vrai que parfois nous mettons du temps, beaucoup de temps, pour que cette compréhension intellectuelle se transforme en compréhension émotionnelle et engendre un vrai changement dans notre vie. Nous l'avons souligné à travers ce passage de Corinthiens, et on le retrouve encore dans ces passages que je vais citer. Le but du Seigneur, c'est de transformer nos vies. Et parfois, on l'oublie. Ce passage nous rappelle que c'est Dieu incarné en Jésus qui est à l'initiative de la rencontre. Et je vais prendre un autre texte, peut-être plus parlant encore, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 16. C'est Jésus qui dit « Ce n'est pas vous, en s'adressant à ses disciples, qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Nous voyons dans ces deux passages que notre élection va de pair avec notre vocation. En tout cas, c'est l'intention de Dieu. Dans Marc, il est dit pour les envoyer annoncer la bonne nouvelle. Et dans Jean, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, n'est-ce pas la même chose? Et que votre fruit demeure. Dans les deux passages, il est question, je pense, d'être des témoins de la grâce, de la bonne nouvelle. C'est notre vocation. Je reviens ensuite sur la question qu'aborde Valérie, à savoir celle du mérite, entre guillemets, de l'appel. Ai-je mérité d'être appelé par Dieu? Si on examine plusieurs passages, on est obligé de répondre non à cette question. Pourquoi ? Ben parce qu'on risquerait de tomber dans l'orgueil qui consiste à croire que l'on soit élu, qu'on fasse partie d'une caste privilégiée, un petit peu comme les Hébreux dans l'Ancien Testament. Eux, ils avaient été élus, effectivement, par le Seigneur pour le représenter auprès des autres peuples. Et donc, il suffisait de naître de parents hébreux pour être soi-même dans le peuple de Dieu. Oui. Mais triste privilège que d'être le peuple de Dieu quand on connaît les ravages de l'antisémitisme qui s'est exprimé tout au long de l'histoire et jusqu'à aujourd'hui. De même, les chrétiens ont été choisis, voulus par Dieu, mais la différence ici fondamentale, c'est que cette élection est conditionnée par notre propre réponse à cet appel que Dieu nous adresse. On le voit dans un passage bien connu de l'évangile de Jean, au chapitre 3, au verset 16 à 18. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alors, en ce moment, on parle beaucoup d'élection, de référendum citoyen en France. Il y a quoi je fais allusion, j'espère. Si on veut faire une comparaison, je dirais que la conversion, c'est un peu comme une élection. Mais Dieu appelle chaque être humain à se porter candidat au royaume de Dieu. Et il suffit d'une seule voix pour être élu. Une seule voix. Et cette voix, c'est la mienne. Je suis responsable de ma destinée éternelle. Dieu a tout pourvu en Jésus-Christ. Il nous a choisis, mais répondrai-je à son appel ? C'est la question qu'il pose à chacun d'entre nous, et chacun d'entre nous a responsabilité d'y répondre pour lui-même. Et comme c'est Dieu qui est à l'initiative depuis 2000 ans, son Église s'est constituée au fil des siècles sous des formes très diverses, et nous voyons aujourd'hui des organisations très variées se revendiquer chrétiennes. Et parfois, ça nous gêne un peu, il faut être honnête. Si je puis vous faire part de mon expérience, je l'ai déjà raconté dans cette église, mais à d'autres occasions, moi qui, venant d'un milieu familial parfaitement étanche aux questions religieuses, quand je me suis converti à l'âge de 20 ans, j'ai pensé avoir trouvé la vraie église. La seule, celle qui se rapprochait le plus de celle décrite dans le Nouveau Testament. Pensez-vous, pas de curé, pas de pasteur, des responsables ayant tout au plus 40 ans, une fraternité très forte, une simplicité, une ferveur communicative. C'était l'endroit rêvé pour devenir un jeune chrétien, plein d'ambition et peut-être plein d'illusions aussi. Oui, parce qu'il faut que je vous explique. Quelques mois plus tard, après ma conversion, je partais tout joyeux en voiture à ma première réunion de frères. Il faut que je vous explique, ma première église faisait partie d'une dénomination qui s'appelait à l'époque Communauté Assemblée Évangélique de Frères. Il y avait des sœurs, bien sûr, dans notre église, mais elles n'avaient pas droit au chapitre. Et donc, ces réunions, pour la première fois que je me rendais, c'était des sortes d'assemblées générales qui avaient lieu périodiquement, où les frères débattaient des affaires de l'Église. Alors, il y avait dans cette réunion les trois anciens de notre Église. Il y avait un pasteur missionnaire suisse assez âgé qui s'occupait de créer une église laotienne. Il avait été missionnaire au Laos et puis il avait dû partir en 75 quand la révolution des Khmers Rouges a déferlé sur le Cambodge, ou le Laos, je ne sais plus. Cambodge, hein, c'est ça. Et donc, c'était un mouvement, alors pour les plus jeunes, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais dirigé par Pol Pot, et c'était un mouvement maoïste qui a semé la terreur pendant 4 ans à peu près au Cambodge. Dans ce groupe, il y avait aussi de jeunes ouvriers, et puis nous devions être 3 jeunes missionnaires en milieu étudiant. Donc peut-être 12 à 15 personnes dans le petit local d'un immeuble de Rieux-la-Pape, près de Lyon. Et là, j'ai commencé à perdre mes illusions sur ce que je croyais être l'église idéale. parce que cette réunion s'est très mal passée. En fait, j'ai découvert à cette occasion qu'il y avait un contentieux entre, d'une part, deux anciens, et avec le troisième, il y avait ce qu'on appelle une bisbille. Grosso modo, c'était plutôt un problème d'ego et de sensibilité entre deux parts. D'une part, deux gars un peu sanguins, l'un avait le don de pasteur et l'autre d'évangéliste, avec le troisième qui avait plutôt le don d'enseignement. Et cet homme, qui était très pondéré, très cérébral, on va dire, eh ben, il avait un ascendant naturel sur l'Église, et c'était finalement lui le leader de l'Église. Alors les deux autres étaient un peu, si vous voulez, un petit peu jaloux, je pense, et d'où venaient après tout un tas de disputes qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt, on va dire. Alors comme tous les trois étaient pieds noirs, je vous prie de croire que la réunion était, disons, très animée. Et il a fallu toute la diplomatie du vieux missionnaire suisse pour clore le débat. Mais quand je suis reparti, j'étais, moi, dans un état second. Les écailles m'étaient tombées des yeux, et je réalisais que, bah, dans toute église et dans toute organisation chrétienne, même si elle paraît très très bien conforme à l'esprit de l'Évangile, eh bien, il y avait un os, c'est qu'il y avait des humains, avec leurs péchés, avec leur orgueil, etc. Et donc, je recevais ma première leçon de non-sectarisme de la part de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je consacre une bonne partie de mon engagement chrétien à promouvoir l'ouverture vers les autres églises, car je suis convaincu que s'il doit y avoir un réveil spirituel en France, et pourquoi pas en Europe, ce sera quand les chrétiens authentiques de toute dénomination et même de toute confession, parce que quand on dit dénomination, on reste dans le milieu protestant, vous savez. Mais quand on dit confession, c'est beaucoup plus embêtant, parce que là, on parle aussi des catholiques, aussi des orthodoxes, par exemple. Quand ces chrétiens authentiques appliqueront vraiment ces paroles de Jésus dans l'évangile de Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et donc, quand nous ne confondrons plus adoration de Dieu avec adoration de notre Église ou de notre conducteur spirituel. Valérie, ensuite, évoque très rapidement l'évangile de la prospérité. Quand elle parle de succès et de richesse, c'est un courant théologique assez récent, enfin théologique si on peut dire, un courant de pensée, on va dire, qui est né, quand j'ai regardé un petit peu ça sur Internet, dans les années 60, aux États-Unis, puis à la fin des années 70, en Afrique et en Amérique du Sud, dans les milieux qu'on va dire pentecôtisants, pour rien. C'est-à-dire, pas les milieux pentecôtistes établis, mais voilà, des gens qui sont un peu à la marge et qui développent de nouvelles choses. En France, elle touche surtout les églises ethniques. Et on peut dire que le véritable évangile ne garantit pas la santé ni la richesse matérielle, mais plutôt la santé et la richesse spirituelle. Alors bien sûr, il y a des passages comme Jean 10, 10 qui dit « Le voleur vient uniquement pour voler, tuer, détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. » Alors, on peut penser à abondance matérielle. Mais quand on lit la suite, on voit qu'il s'agit d'autre chose. Il dit au verset 11 « Je suis le bon berger. Le bon berger est prêt à donner sa vie pour ses brebis. L'homme qui ne travaille que pour de l'argent n'est pas vraiment le berger. » Les brebis ne lui appartiennent pas. Il les abandonne et s'enfuit quand il voit venir le loup. Alors le loup se jette sur les brebis et disperse le troupeau. Voilà ce qui arrive parce que cet homme ne travaille que pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Et là, cet homme qui ne travaille donc que pour l'argent, cela peut faire référence à ces promoteurs de l'évangile de la prospérité, dont certains sont les multimillionnaires aux États-Unis. C'est incroyable, vous voyez, des gens qui ont des jets privés, qui disent c'est normal, parce que je suis tellement spirituel que Dieu m'a abondamment béni grâce à vos dons. Et heureusement, certains se font épingler par la justice, ça fait penser à Al Capone, et Yacht Ness et ses incorruptibles, qui avaient réussi à choper Al Capone, non pas sur les délits, les crimes, la prostitution, le trafic d'alcool, mais uniquement sur la question fiscale. La question fiscale, il a réussi à le coincer grâce à ça, à l'envoyer en prison. Donc là, ces gens-là, de temps en temps, ils se font pincer. Enfin, bref. dans l'église de Jésus-Christ, oui, il y a des loups. Et il y a aussi, heureusement, des vrais chrétiens authentiques, des gens bien portants et des handicapés. Alors, si quelqu'un vient vous dire que le Seigneur guérit, surtout si vous donnez votre argent, rajoutez simplement, bah oui, il guérit certainement les cœurs brisés, les vies vides de sens. Pour ce qui est de la guérison physique, il faut se rappeler l'exemple de Paul, qui dit dans 2 Corinthiens 12 qu'il y a un gros souci de santé, et qu'il a prié 3 fois, et puis que malheureusement, il est resté avec son handicap. Hein. Verset 9, 2 Corinthiens 12, 9, « Dieu m'a répondu, ma grâce te suffit. » Ma puissance se manifeste précisément quand tu es faible. Alors, on dit souvent qu'on ne choisit pas sa famille. C'est vrai que, pour ce qui est des liens du sang, mais également des liens spirituels. L'Église de Jésus-Christ, elle est composée de ceux qu'il a voulu, pour paraphraser le passage de Marc 8, pas de ceux qui me plaisent ou avec qui j'ai des pommes crochues. Il appelle en effet des étrangers, des réfugiés. Combien de passages de l'Ancien Testament, notamment, rappellent au peuple de Dieu qu'il se doit d'accueillir l'étranger, même de le protéger. Et que dire de l'attitude de Jésus pendant ses 3 ans de ministère? Lui qui demande de l'eau à une femme samaritaine, alors, 2 défauts, elle est samaritaine, en plus c'est une femme, et puis qui admire, moi j'aime bien aussi, il y a un passage où Jésus admire un centenier romain, parce qu'il est respectueux de l'autorité, il reconnaît en Jésus l'autorité de Dieu. Ouais, ça, c'est dingue. Le seul homme que Dieu a pu admirer, c'est un Romain qui n'était pas un Juif. Et donc, ça montre quoi? L'image d'un Dieu qui ne fait exception de personne, pour reprendre une vieille expression, on pourrait dire aujourd'hui « pas de discrimination ». Et à son exemple, l'Église doit accueillir l'étranger, l'aimer et le protéger. Et puis donc, l'Église est un rempart contre toutes sortes de maux, hein, le nationalisme, le populisme, le sexisme, le racisme et toutes les injustices. Alors c'est vrai qu'on a tendance à confondre unité et uniformité, et que nous avons bien du mal à considérer, à comprendre ce qui fait la foi de chrétiens d'autres confessions, d'autres dénominations. Mais nous n'avons pas choisi, et nous n'avons pas à choisir nos frères et sœurs. Que sera 2019 à cet égard? Et que pouvons-nous faire pour être ou devenir des chrétiens réconciliés avec toute l'Église de Jésus-Christ? Je vous invite à méditer ce passage de 1 Timothée 2. C'est Paul qui parle. Il dit « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. » Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voici ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés, et que c'est en lien, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous, tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Là, il défend son ministère, parce qu'à l'époque, c'était bizarre pour les juifs de voir Paul, il avait toutes les étiquettes. Il était juif, il était romain, bref. Mais il a été annoncé l'évangile aux non-juifs, ce qui posait problème. Il conclut, c'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Sans colère ni esprit de dispute. Nous voyons dans ce passage donc que Paul recommande en tout premier lieu qu'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications. C'est pourquoi, en chaque début d'année, le CNEF et dans le monde entier l'Alliance évangélique mondiale, dont le CNEF est une déclinaison en France, en fait, organise une semaine de prière qui aura lieu du 13 au 20 janvier. Et d'ailleurs, le 14 janvier, c'est dans pas longtemps, ça commence dans cette salle. Et ça va être suivi de 44 jours de prière à l'aide d'un petit dépliant. Alors, je ne sais pas si vous l'avez reçu par mail. Il me semble que j'en ai un là. Je l'ai imprimé hier avec mon imprimante un petit peu fatiguée, vous voyez. La cartouche couleur est en train de passer. Donc, si vous ne l'avez pas, je vais vous le renvoyer. Hein, c'est très bien fait. Donc, il y a 44 jours pour le département 44 et il y a 44 sujets de prière qui concernent Nantes et la Loire-Atlantique. Hein, donc, c'est vraiment des sujets orientés pour notre département et pour nos autorités, comme le dit Paul, etc. Enfin, ouais, c'est très complet. Donc, je vous encourage à l'imprimer pour vous-même, à le glisser dans votre Bible, comme ça, à chaque jour, vous pouvez y penser. Et ça nous permettra de nous mettre dans... Enfin, bon, je vais dire, nous, on est 85 maintenant, Françoise et moi, depuis à peine un mois. Mais je trouve que l'initiative est très, très bien. Il y a, en Loire-Atlantique et en 85, c'est encore pire, mais il y a beaucoup de zones blanches. Et l'idée du CNEF, c'est comment on va faire, nous, chrétiens, dans nos églises, pour contribuer à ce qu'il y ait un témoignage chrétien dans tous les petits villages et villes de la Loire-Atlantique. Et ça nous mettra justement dans l'idée que, voilà, on est un peuple avec différentes sensibilités. Bon, je n'ai pas les mêmes convictions que des amis pentecôtistes ou autres, mais ce n'est pas grave, on est là parce que Dieu nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi et il veut nous mettre ensemble dans les projets communs. Voilà, en conclusion, je vous souhaite une bonne année, un envol vers peut-être plus de liberté et d'être ce que Dieu vous a destiné à être. Un choriste, un musicien, peut-être même un soliste dans le grand orchestre symphonique qu'est l'Église de Jésus-Christ. Il y a un très beau film qui vient de repasser pendant les fêtes qui s'intitule « Va, vis et deviens ». Il faut le voir, ce film, il est très très bien. Alors, pour reprendre cette formule, je dirais, ensemble, allons, vivons et devenons plus conformes à l'image de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.